Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit notre Seigneur. Rien faire qui ne soit utile pour notre salut, qui ne soit utile pour le ciel. Donc nous l'avons vu, qu'il nous faut la grâce pour aller au ciel. La grâce habituelle, bien sûr, l'état de grâce, donc l'état d'amitié avec Dieu, donc celle-ci nous est nécessaire, évidemment. Et pour avoir cette grâce habituelle, il nous faut le secours passager, la grâce actuelle. Mais nous avons vu aussi qu'il faut coopérer à cette grâce actuelle pour y être fidèle. Puis il nous faut aussi obtenir d'autres grâces, toutes celles dont nous avons besoin, nous connaissons nos faiblesses, etc. Donc que faut-il faire? Eh bien, il faut prier. Il faut prier, donc nous allons parler de la prière, tout simplement. La prière. Souvent, ce qui nous semble ardu, qui nous semble un devoir absolument hors de nos capacités. Prier nous semble vraiment difficile, rébarbatif. J'ai d'autres choses à mieux à faire qu'à prier. Enfin bref, on entend tout ça. Ou alors, si ce n'est pas vous qui le dites, ce sont peut-être vos enfants ou vos neveux, nièces, petits-enfants. « Oh, c'est encore l'heure du chapelet, si vous priez. Ah non !» Bon. Hein? Donc peut-être nous-mêmes aussi nous le disons. Parce que précisément, nous ne savons pas trop ce que c'est que la prière, ou alors nous la considérons mal. Alors, on parlera d'abord surtout de la prière en tant que telle, et puis ensuite, nous verrons, on ferait un excursus, ou enfin, disons un complément sur l'oraison proprement dite. Donc la prière, qu'est-ce que c'est que la prière, nature de la prière? Eh bien, selon la définition classique de la prière, c'est l'élévation de notre âme vers Dieu. Donc ça, vous connaissez, c'est repris par tous les auteurs spirituels, élévation de notre âme vers Dieu. Pourquoi? Eh bien, en vue de lui rendre nos devoirs et de lui demander ses grâces. Donc on a les devoirs à rendre en Dieu, on lui demande ses grâces, afin de devenir meilleurs, bien sûr, pour que nous devenions meilleurs pour sa gloire. Alors quand on dit que la prière est une élévation de l'âme, ça veut dire que par la prière, l'âme s'élève du fond de son néant de créature jusqu'à son créateur, vers la majesté infinie de Dieu. Et donc, notre âme, par la prière, va s'élever, va monter jusqu'à Dieu, son créateur, à qui elle doit tout et de qui elle dépend. Donc ça, c'est vrai, il ne faut jamais l'oublier. Bon, je pense qu'on en a assez parlé, vous l'avez entendu dans des conférences à table. Donc ce fait que nous ne soyons qu'une créature, que Dieu est un créateur, est le créateur, un autre créateur. Mais si on vous l'a dit répété, rabâché, c'est vraiment une réalité. Donc il faut vraiment qu'elle s'imprègne dans notre âme et qu'ensuite nous en vivions. Et ainsi, on va voir notre prière, eh bien, nous allons nous élever de notre néant de créature jusqu'à notre créateur. Voilà pourquoi on parle de la prière, une élévation de notre âme. Nous allons vers notre Créateur. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier parce que avant, par exemple, d'exposer des requêtes à une personne, avant de demander quelque chose à une personne, vous allez la saluer. Évidemment, on salue d'abord la personne, on ne va pas directement lui demander quelque chose. Eh bien, il va nous falloir, pareil, avant de demander quelque chose à Dieu, il va falloir l'adorer, évidemment. Donc, voilà la prière, la nature. Bon, encore une fois, je crois que là, il n'y a rien de difficile, on le sait. Mais évidemment, pourquoi prier? Ça, c'est peut-être une question aussi qu'on se pose. Eh bien, le but de la prière, c'est bien sûr l'adoration d'abord et ensuite la demande. L'adoration, parce que comme je viens de le dire, c'est le premier sentiment qui s'impose quand on s'élève vers Dieu. Si on se rappelle bien toujours ce fait d'être une créature, qu'on s'adresse à notre Créateur, eh bien automatiquement, le premier mouvement qui va se produire dans notre âme, c'est l'adoration. Parce qu'on s'adresse à notre souverain maître, on s'adresse à notre divin maître. Donc comme définition, comme dit Bossuet, l'adoration est une reconnaissance en Dieu de sa plus haute souveraineté et en nous, de la plus profonde dépendance. Belle définition, effectivement, de l'adoration, c'est pas Bossuet. Reconnaissance en Dieu de sa plus haute souveraineté et en nous de la plus profonde dépendance. Oui, même Bossuet s'y met lui aussi. Donc on peut pas y échapper. Vraiment, ce ens ace et ens abalio, c'est vrai qu'on ne peut pas s'y échapper, on ne peut pas y échapper. On n'est vraiment qu'une créature. Donc on reconnaît, on adore Dieu, notre Créateur, et on dépend de lui parfaitement. Donc si notre prière commence ainsi d'abord à adorer Dieu, prière d'adoration. Évidemment, tout de suite, qu'est-ce qui va suivre l'adoration? Ça va être la reconnaissance, automatiquement. Car on va se dire que non seulement Dieu est notre souverain maître, mais encore il est notre insigne bienfaiteur, à qui nous devons tout ce que nous sommes. Et non seulement nous devons tout ce que nous sommes, mais tout ce que nous avons, que ce soit dans l'ordre de la nature ou de la grâce, nous devons tout à Dieu. Donc si vous voulez, à partir du moment où on commence à adorer Dieu, on se rend mieux compte de ce qu'est Dieu, et automatiquement ensuite, on est rempli de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Parce que ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne me le suis pas donné à moi-même. Donc tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, oui, nous l'avons obtenu de Dieu. Et cette reconnaissance, elle peut être toujours perpétuelle, parce que nous avons toujours des nouveaux bienfaits. Ne serait-ce que, par exemple, chaque jour, se réveiller chaque matin, c'est déjà un acte de reconnaissance. Parce que bien, si Dieu nous laisse le temps, c'est encore pour mieux l'aimer, et donc mieux se préparer à paraître devant lui, toujours. Bon, un jour, ça s'arrêtera, évidemment. Mais tant que le bon Dieu nous fait voir le matin, il faut se dire, bah, c'est vrai, le bon Dieu me donne cette journée, c'est pour se rapprocher un peu plus de lui, hein, par cet amour encore plus grand. Donc vous voyez, chaque fois que le motif de reconnaissance. Donc la prière, c'est vraiment aussi un acte de reconnaissance. Mais si on est logique, donc on adore Dieu, ensuite on voit ce mouvement de reconnaissance par tout ce que nous avons. Ensuite, après avoir reconnu, remercié Dieu de tout ce que nous avons, il y a automatiquement un autre acte qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'on va se reconnaître dans un état de nature déchue. Donc, ça veut dire, eh bien, qu'on a offensé Dieu aussi parfois. Et que ce devoir, donc, qui va arriver, c'est le devoir de l'expiation, de la réparation. Oui, j'adore le Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il m'a donné, mais tout de suite, je m'aperçois que je n'ai pas toujours été fidèle. Donc, arrive aussi, dans cet acte, englobé, si je puis dire, dans cet acte d'adoration, eh bien, un acte d'expiation, de réparation. Parce que nous avons offensé l'infinie majesté divine. Et même le pire, en se servant de ses dons. Tout ce que j'ai reçu, je vais utiliser les dons que j'ai reçus pour offenser mon Créateur. Ça, c'est le pire. Et c'est ce que nous faisons bien souvent. Évidemment, toutes les qualités naturelles et surnaturelles que nous a données le bon Dieu, nous en avons. Nous devons les développer. Ça, c'est la parabole des talents. Donc, nous avons tous des talents. Donc, nous devons développer nos talents. Donc, ne les laissons pas enfouis dans la terre, c'est clair. Mais ensuite, il faut bien reconnaître que ces talents que le bon Dieu nous donne, nous les utilisons un petit peu aussi pour l'offenser. Par exemple, l'orgueil, la vanité. C'est-à-dire qu'on va donner l'impression que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous faisons de bien, c'est par nous-mêmes. Alors, on se vante, on s'enorgueillit de nos dons, alors que les dons, comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Donc, vous voyez, le pire, c'est qu'on offense le bon Dieu, même en se servant des dons qu'il nous a donnés. Donc, cette injustice, eh bien, va demander, évidemment, réparation, hein, toujours dans... Comment on répare cette injustice dans la prière? Eh bien, d'abord, l'humble aveu de sa faute. Il faut d'abord reconnaître humblement nos fautes. En avoir la contrition sincère, bien sûr. Et puis, accepter courageusement les épreuves qui nous arrivent, et les accepter pour réparer justement cette injustice, d'avoir utilisé les dons que Dieu nous a donnés pour l'offenser. Voilà un petit peu d'abord ce premier but de la prière, de l'adoration. On adore Dieu, avec lequel découlent ces deux actes de reconnaissance et d'expiation, de réparation. Ensuite, l'autre but de la prière, évidemment, après l'adoration, c'est la demande. la demande. Bon, il faut bien dire que la demande, en général, on connaît. On sait que la prière, quand on prie, on demande. Mais il ne faut pas oublier d'abord le premier devoir d'adoration, c'est clair. Parce que par la prière de demande, la demande, donc l'autre but de la prière, c'est aussi un hommage rendu à Dieu, à sa puissance, à sa bonté, à l'efficacité de sa grâce. C'est un acte de confiance. Donc on va demander. Donc en demandant à Dieu, on lui rend hommage en même temps. Parce qu'on sait qu'il est tout puissant, qu'il est bon, qu'il peut m'exaucer. J'ai confiance en cela. Et c'est vrai que cette prière de demande, notre fondement de cette prière de demande, eh bien, ça va être l'amour de Dieu pour ses créatures et ses enfants. On sait que Dieu nous aime, aime ses créatures, il veut que nous allions à lui. Donc, nous allons le prier. Et en même temps, ce qui va fonder notre prière, c'est évidemment le besoin urgent que nous avons de ce secours, de son secours. Nous voyons bien que sans son secours, sans son aide, nous sommes bien malheureux. Donc nous avons besoin de son secours. Nous allons lui demander. Et en même temps aussi, on le voit bien dans l'Évangile, je vais en parler, Dieu nous invite lui-même à nous demander ses grâces. Dieu lui-même nous le demande. Demandez. Et en plus, il nous promet de les accorder. Il nous demande de lui le demander et en même temps, il nous promet de les accorder. Alors ça, vous avez bien sûr ce grand passage qu'il faut connaître par cœur. C'est dans le discours sur la montagne, donc c'est Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7 et suivant. Voilà comment notre Seigneur lui dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Je lis déjà la suite, mais qui peut s'appliquer un peu dans tout ce que je vais dire. « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre ? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ?» Oui, vous voyez, bien sûr, la bonté de Dieu. Donc vous voyez, Dieu nous invite aussi à lui demander ses grâces et il nous promet de les accorder, d'accorder ses grâces. Bon, pas besoin de faire la liste des secours dont nous avons besoin dans l'ordre naturel. Bon. Nous connaissons tous nos intentions, bon, que ce soit personnel, la santé ou autre bien, ou réussir des examens, ou je ne sais pas quoi, ou enfin bref. Puis ensuite, tous vos soucis de famille, etc. Donc nous connaissons tous. Et puis ensuite, même dans l'ordre surnaturel, nous connaissons nos besoins. Autrement, vous ne seriez pas venu en retraite. Tous nos besoins, lumière, courage, force, alors qu'on se décourage, qu'on désespère, etc. Bon, et toutes ces grâces dont nous avons bien besoin. Mais évidemment, vous faites une objection, je l'entends. J'entends cette objection. Je dis, mais c'est bien gentil tout ce que vous nous dites, tout ce que vous dites là, c'est bien, c'est beau. Mais avons-nous vraiment besoin de prier Dieu ? Pourquoi ? Parce que par sa science, il connaît tout ce qui nous est nécessaire et utile. Donc, pourquoi prier Dieu ? Dieu sait tout. Donc je ne vois pas pourquoi je vais m'astreindre à prier puisqu'il sait ce dont j'ai besoin. Donc évidemment, comme il sait ce dont qui m'est nécessaire et utile, eh bien j'attends que Dieu me donne tout. Et puis comme ça, ça va, pourquoi prier ? Ça, c'est des objections qu'on peut entendre. Bon, bien sûr, je ne mets pas en cause votre bonne foi si vous me dites une telle chose. Je ne mets pas en cause votre paresse. Ça, ce n'est pas votre paresse qui dirait ça. Alors que faut-il répondre à des gens qui vous diraient ça ? Pas besoin de prier parce que Dieu sait tout. Alors évidemment, déjà, il faut reconnaître que c'est vrai, que Dieu va nous accorder par pure libéralité beaucoup de choses sans que nous lui ayons demandé. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que nous avons, que nous obtenons de Dieu sans que nous lui ayons demandé. Et heureusement. Mais ça, c'est vrai. Ça, on reconnaît. Mais ce n'est pas ce que veut dire la personne en général dans cette objection. Non, il faut aussi reconnaître que Dieu ne veut accorder, ne veut accorder certaines choses que par la prière, qu'à la prière, et cela pour notre bien. Effectivement, Dieu, de temps en temps, ne veut nous accorder certaines grâces que parce que nous lui demandons. Pour notre bien, pour que nous mettions notre confiance en lui et que nous le reconnaissions comme auteur de nos biens. Voilà pourquoi, effectivement, Dieu, même s'il sait ce dont nous avons besoin, néanmoins, va nous laisser les lui demander par la prière. Et nous ne les accordera que par la prière. Ainsi, nous serons moins exposés à l'oubli de Dieu. Déjà, nous oublions facilement Dieu, il faut le reconnaître. Mais alors, imaginez qu'est-ce que ce serait si, en plus, nous ne sentions même pas le besoin de recourir à lui. Vous vous rendez compte? Alors là, c'est vrai, ça serait l'oubli absolu. Donc, il faut reconnaître que c'est à bon droit que Dieu exige de nous la prière, même sous une forme de demande. C'est pour notre bien qu'il nous obtient certaines grâces que par la prière. Voilà un petit peu la nature de la prière. C'est de décortiquer un peu ce que c'est que la prière. Est-elle maintenant nécessaire, nécessité de la prière? Bon, ça c'est facile. Si vous avez bien compris la nécessité de la grâce actuelle, comme je l'ai rappelé au début, eh bien, la prière est fondée sur cette nécessité de la grâce. Sans la grâce, on ne peut pas se sauver. Donc, comment obtenir la grâce? Par la prière. Bon, à part évidemment la première grâce qui nous est obtenue totalement gratuitement, sans que nous prions. Quelle est cette première grâce? Quand nous sommes, pour la première fois, arrivés en état de grâce. En général, c'est le jour de notre baptême. Donc cette première grâce, nous ne l'avons pas priée. Nous n'avons pas prié Dieu pour l'obtenir. Donc c'est vrai que la première grâce nous est accordée totalement gratuitement, sans la prière. Mais à part celle-ci, la prière est le moyen normal, efficace, universel, par lequel Dieu veut que nous obtenions toutes les grâces actuelles. C'est la voie ordinaire. Moyen normal, efficace, universel. D'ailleurs, notre Seigneur nous rappelle la nécessité de la prière dans l'Évangile, surtout par exemple quand il s'agit de résister à la tentation. Et ça, au moment de son agonie, quand il va revoir ses apôtres, il va les revoir, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc, si vous voulez la référence, c'est Matthieu 26, 41. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez. Notre Seigneur nous dit, priez. Donc là, surtout pour résister à la tentation. Ainsi, on peut dire que toute confiance qui n'est pas fondée sur la prière est présomptueuse. Celui qui a confiance en Dieu mais sans prier, ça, c'est la présomption. Vous avez l'exemple aussi dont je vous ai parlé l'autre fois, c'est Saint Pierre. Saint Pierre, quand il a renié son maître, c'est quoi? C'est la présomption. Il s'est mis en occasion de danger. En plus, il avait été averti. Non, Seigneur, vous ne mourrez pas, ce n'est pas possible. Pierre, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais non, Seigneur, ce n'est pas possible. Donc, notre Seigneur le prévient. Et après, bon, sans doute, plein de générosité. Bon, après l'agonie, après l'arrestation, bon, il s'enfuit et puis il revient quand même un peu après avec Saint Jean pour voir comment ça va se passer. Et là, bah, il va rentrer dans la cour du grand prêtre, donc sans doute avec Saint Jean. Saint Jean, lui, l'évangile ne nous en parle plus, sans doute il a dû aller se retirer quelque part ou je ne sais pas. Lui, Saint Pierre, reste dans la cour avec les gardes, etc. Donc il se met vraiment en occasion de faute, de péché. Donc il pêche par présomption. Eh bien, justement, vous voyez, si notre confiance est comme la sienne, présomptueuse, sans la prière, eh bien, évidemment, nous risquons d'avoir des problèmes, des soucis. Parce qu'il faut bien se dire que Dieu ne nous doit point sa grâce en justice. Dieu n'est pas obligé de nous donner sa grâce. Et il s'est engagé à nous la donner que si nous la demandons avec instance. Donc il ne faut pas avoir cette présomption. Ah ben, je n'ai pas besoin de prier, de toute façon je suis en état de grâce et puis tout va très bien. Non, parce que Dieu, attention, ne s'est pas engagé à nous donner la grâce en justice. Mais il ne s'est engagé à nous la donner que par la prière, que si nous prions, si nous la demandons avec instance. Donc bien se le rappeler. Notre Seigneur, d'ailleurs, dans sa vie publique, nous en a donné un exemple. Il prie en secret, on le voit prier en secret, on le voit prier en public. D'ailleurs, ses apôtres, à force de voir notre Seigneur prier, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont lui demander, Seigneur, apprenez-nous à prier. On vous voit, apprenez-nous à prier. Alors, notre Seigneur, quand vous prierez, vous direz, notre Père, etc. Donc, notre Seigneur prie en secret, en public, en tout lieu. Il prie la nuit aussi. Combien de fois l'Évangile nous dit, notre Seigneur se retira tout seul dans la montagne et il pria toute la nuit. Il passa la nuit en prière. On voit des exemples, avant de choisir ses apôtres, par exemple, il passe la nuit à prier, justement, avant de choisir les 12. Vous avez un autre exemple, avant de, quelquefois, bon pas toujours parce que Jésus est Dieu aussi évidemment, mais certaines fois il a voulu montrer qu'il priait avant de faire des miracles. Vous avez le cas dans la résurrection de Lazare. Cela vous avez, c'est l'épisode dans Saint Jean au chapitre 11, verset 41. Bon, vous savez, vous connaissez l'épisode, hein, donc il va au tombeau, et là, comme tout le monde pleure, lui aussi se met à pleurer, donc c'est beau, entre parenthèses, de voir notre Seigneur pleurer un ami. Donc vous voyez, c'est quelqu'un, notre Seigneur a un cœur humain, c'est pas un Dieu lointain, etc., non, il pleure un ami qui est mort. Donc il n'est pas interdit de pleurer quand il y a un décès, c'est vrai. Et là, ensuite, on enlève la pierre. Et Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je vous rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que vous m'écoutiez, que vous m'écoutez toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que vous m'avez envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, dehors !» Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes. Son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Vous voyez, il donne encore un exemple de prière. Il prie son Père avant de faire ce grand miracle de la résurrection de Lazare, qui d'ailleurs après va vraiment condamner notre Seigneur. Puis ben forcément, les Juifs qui étaient là, ils vont se convertir. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça, donc Jésus est le Messie. Et puis les grands prêtres, les pharisiens sont furieux. Tous les hommes, tout le monde va à lui, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puis évidemment, ils vont décider de le tuer. Vous voyez l'exemple de notre Seigneur qui nous donne l'exemple de la prière. Lui, tout Dieu qu'il est, il prie son Père. Alors arrivons maintenant, bien sûr, dans choses peut-être un peu plus concrètes. C'est quelles sont les conditions essentielles de la prière? Comment bien prier? Évidemment, première condition, c'est du côté de l'objet. C'est-à-dire, la condition la plus importante de ce côté, de l'objet, ce qu'il faut demander, c'est de ne demander que les biens qui nous conduisent à la vie éternelle. Donc toutes les grâces surnaturelles, ça c'est clair, c'est la première chose à demander. Première chose, les biens qui vont nous conduire à la vie éternelle. Ça, on l'a vu, on répétait, c'est notre but, c'est ce que Dieu attend de nous, il nous a créé pour cela. Et puis secondairement, donc en dessous, secondairement, dans la mesure où ils sont utiles à notre salut, donc on peut demander des biens de l'ordre temporel, évidemment. Mais dans la mesure où ils sont utiles à notre salut. Et ça encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur lui-même. C'est la règle posée par notre Seigneur. Là, vous le trouvez de nouveau dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et c'est la règle donnée par notre Seigneur. Donc d'abord, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Bien sûr, les grâces pour aller vers lui, le ciel. Et après, de manière secondaire, tous les biens temporels dont j'ai besoin. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, il faut demander les biens temporels dans la mesure où ils sont utiles à notre salut et non pas dangereux pour notre salut. Alors, si je prêchais à des hommes, je prendrais comme exemple, vous allez comprendre quand même, qu'est-ce que vous pourriez avoir besoin? Oh, moi, je rêve, je demande, je prie pour avoir une belle Ferrari. Belle Ferrari bien rouge, avec un moteur de X, je sais pas, au moins 250 chevaux. Donc, c'est fait que dès qu'on touche à peine la pédale d'accélérateur, vroom, on part déjà à 200 à l'heure, etc. Et puis, on vient me voir, dire, j'arrive pas, le bon Dieu veut pas, j'ai pas assez d'argent pour acheter ma belle Ferrari. Eh bien non, ça serait trop dangereux pour vous. D'abord, faute d'orgueil, imaginez, vous allez frimer devant tout le monde. Ah, donc ça, premièrement, orgueil, et puis ensuite, mettre votre vie et celle des autres en danger. Donc, non, c'est normal que le bon Dieu vous exauce pas. Bon, maintenant que je prêche à un milieu un peu plus féminin, alors quel exemple prendre? Alors, j'ai eu l'idée l'autre jour, il y a quelques temps, à l'aéroport de Vienne en Autriche. Donc, je sors de là-bas, de l'aéroport, et puis on va au prieuré. Et à peine sorti de l'aéroport, qu'est-ce qu'on voit? Grande affiche publicitaire, donc on est à Vienne en Autriche, imaginez, le musée de Sissi. Alors, on voit évidemment Sissi, et puis qu'est-ce qu'on voit? Habillé de belles robes, de beaux colliers, des bijoux, des boucles d'oreilles partout, etc. Donc là, je me dis, peut-être que vous dites, ah oui, mon Dieu, je prie toujours pour avoir une robe comme Sissi, une belle robe, vous imaginez, de beaux colliers, on peut en faire au moins 20 fois le tour. Hein? Ah, ça, je rêve de ça, de belles chevalières, je ne sais pas quoi. Bon, et je ne suis pas exaucé. Eh bien, peut-être que le bon Dieu ne vous exauce pas pour avoir une belle robe, de Sissi. Évidemment, c'est peut-être pour la même chose. Vous mettriez votre âme en danger, je ne sais pas, des fautes de vanité, d'orgueil, etc. Bref, oui. Donc, ce n'est pas utile pour votre salut, hein, tout simplement. Donc, c'est ça, demander les biens temporels dans la mesure où ils sont utiles à notre salut. Ils n'ont pas dangereux. Et puis, quand on demande telle ou telle grâce particulière, eh bien, savoir la demander en conformité avec la volonté de Dieu. Quand on demande telle ou telle grâce, toujours se dire, mon Dieu, si vous le voulez. Parce que, encore une fois, Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient. Alors, évidemment, j'exclus demander une chose mauvaise dans la prière, c'est évidemment un péché, voire même un blasphème. Parce qu'on voudrait dire que Dieu puisse nous obtenir une chose qui soit mauvaise. Alors, évidemment, ça serait une faute. Vous savez comment on voit la caricature, vous imaginez la grande mama italienne qui va aller mettre un cierge pour que son fils réussisse l'attaque de la banque. Bon, ça, c'est évidemment, c'est une faute. Bon, la pauvre, elle ne sait peut-être pas, mais en tout cas, c'est une faute. On ne peut pas demander au bon Dieu une chose mauvaise. Bien, voilà du côté de l'objet. Maintenant, les conditions de la prière, pour bien prier, du côté du sujet. Bien sûr, première vertu, c'est l'humilité. Ça, c'est clair. L'humilité, c'est prier avec un sentiment profond de notre indigence. De notre indigence, de notre impuissance et de notre indignité. Nous sommes des mendiants par rapport à Dieu. Et là, vous avez vraiment, alors, à lire, à relire d'ailleurs l'évangile, pardon, l'Église nous le fait lire, je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que c'est le 10e après la Pentecôte, donc c'est bientôt, dans 2 semaines, la parabole du pharisien et du publicain. Alors là, vous avez vraiment l'exemple type de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc c'est Saint Luc, chapitre 18, verset 13. Oui, il me semble que c'est bientôt, Voilà la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Bon, pour comprendre, vous savez que les pharisiens et les publicains se détestaient souverainement. Le pharisien, c'était celui qui respectait, enfin au moins extérieurement, scrupuleusement la loi de Moïse. Bon, par derrière, il en prenait, il en laissait. Mais le publicain, lui, c'était le traître, le lâche, le collabo, quoi. C'est celui qui était qui travaillait pour les Romains, donc qui ramassait les impôts pour les Romains. Alors vous imaginez, pour un pharisien, c'était l'horreur. Donc les deux se détestaient, enfin au moins de la part du pharisien, il ne supportait pas un publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel en disant, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendu chez lui justifié, l'autre non. Condition de la prière, l'humilité. Alors, vous dire, oh, c'est flagrant, moi je ne prie jamais comme le pharisien. Bien, mon Dieu, je vous rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme ce moderniste qui va à cette messe qui est plutôt une kermesse, qui chante, qui donne la communion, qui la reçoit dans la main, alors que moi je la reçois bien pieusement à genoux, au pied de l'autel. Des mains de votre ministre. Je vous remercie de n'être pas comme ce moderniste, etc. etc. On pourrait en rajouter. Hein. Non, attention. Bon, je me moque un peu, mais attention. Ne critiquons pas ceux qui, peut-être, n'ont pas eu les mêmes grâces que nous. C'est clair. Donc, priez avec humilité. Donc, ne soyons pas le pharisien. Alors, on peut l'adapter à toutes les circonstances que vous voulez. Donc, première condition, l'humilité. Humilité. Donc attention, là-dedans, évidemment, la critique, tout ça, c'est un défaut d'humilité, c'est l'orgueil. Donc toutes les critiques qu'on a, et Dieu sait que ça travaille souvent là-dedans, eh bien, attention, c'est peut-être un signe que notre humilité n'est pas encore bien grande. Donc nous souvenir, première condition, l'humilité. Deuxième condition pour une bonne prière, la confiance, évidemment. Confiance, c'est prier avec la ferme espérance que Dieu nous exaucera. Et cette confiance se base, se fonde non sur nos mérites. C'est pas parce que je vais être exaucé parce que je le mérite, non. Mais elle se fonde sur l'infinie bonté de Dieu et sur les mérites de Jésus-Christ. Dieu est miséricorde et il se penche sur notre misère. La miséricorde, c'est cela, c'est se pencher sur la misère. Et Dieu est miséricordieux. Revenez sur la citation que je vous faisais tout à l'heure, de ce Saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. S'il demande un poisson, est-ce qu'il va lui remettre un serpent, etc. Combien votre Père qui est dans les cieux vous donnera de bonnes choses à ceux qui l'ont pris. Dieu est bon. Donc notre confiance s'appuie sur la bonté de Dieu. Donc il faut prier avec cette confiance. Ensuite, la persévérance, évidemment, persévérance, c'est ne point se lasser de prier. Et là, il faut peut-être le reconnaître que c'est souvent un de nos défauts. Nous ne persévérons pas. Pourtant, si Dieu se fait attendre, ça veut dire qu'il veut que nous sentions mieux la profondeur de notre misère et le prix de sa grâce. Si Dieu nous se fait attendre quelquefois, c'est précisément peut-être pour que nous connaissions un peu mieux notre misère. Eh bien oui, eh ben, mon petit, ma petite, t'as bien besoin de moi. Eh oui, reconnais ta misère. Et puis ensuite, ben, la grâce que je te donne, c'est un grand prix. Donc Dieu veut peut-être effectivement que nous reconnaissions un peu mieux le prix de sa grâce. Et là, vous avez un exemple merveilleux. Merveilleux dans l'Évangile, là aussi. Relisez cet épisode. C'est la fameuse cananéenne. Ça, c'est Saint Matthieu, chapitre 25, verset 24. merveilleux épisode de la Cananéenne. Non, qu'est-ce que j'ai dit, 25, pardon, c'est 15. C'est Matthieu 15, 24. Donc Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon, donc tout au nord de la Galilée. Voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ça commence bien. Il ne dit pas un mot. Donc vous voyez, la femme, première chose, « Ayez pitié de moi, notre Seigneur continue à avancer. » Motus et bouche cousue. Bon, plutôt accueil refroidissant. Ses disciples, s'approchant, le priaient. Fais-lui grâce car elle nous poursuit de ses cris. Ah, changement de tactique. Donc évidemment, notre Seigneur ne dit rien, il la laisse, il continue son chemin. Alors elle passe derrière, il y a les apôtres qui faisaient sans doute un cordon de sécurité. Et puis là, elle se met à hurler. Seigneur, ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi, faites quelque chose, ma fille est malade, etc. Notre Seigneur continue. Mais les apôtres, eux, ils n'ont pas la patience de notre Seigneur. Donc, ils commencent à dire, bon, écoutez, taisez-vous, voyez, notre maître est en train de prier, ça va, il a entendu, il sait, hein. Non, Seigneur, ayez pitié de moi. Bon, alors les apôtres, ils commencent à se dire, bon, on ne peut plus, on ne supporte plus, on va faire une crise de nerfs. On va la frapper. Donc, bon, allez, écoute, Pierre, tu vas dire à Jésus que... Hein. Alors, il y en a un qui s'approche quand même. Faites-lui grâce et nous poursuit de ses cris. Bon. Alors, notre Seigneur répondit. Donc, il répond à ses apôtres. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Bien. Ah bah, écoutez, madame, vous n'avez pas de chance. Vous n'êtes pas israélienne. Vous êtes de Tyr et de Sidon, vous êtes une cananéenne, vous n'êtes pas de la maison d'Israël. Ben écoutez, passez votre chemin, il n'y a plus rien à faire. Bien. Elle ne se décourage pas. Elle peut dire, bon, je fais demi-tour, je m'en vais. Non. La femme, là, elle fait un mouvement circulaire. Elle vient devant maintenant. La femme étant arrivée, se tenait prosternée devant lui. Donc là, elle se met devant, elle se prosterne. Hop. Devant lui en disant, Seigneur, venez à mon secours. Bon, là, notre Seigneur ne peut pas faire autrement, il s'arrête. Donc, là, il répond. Qu'est-ce qu'il répond? Il ne sied pas, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, je me fais traiter de chien maintenant. Il me traite de chien. Hein, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bon, ben, si c'est comme ça, je préviens la LICRA, atteinte aux droits de l'homme, etc. C'est scandaleux, je vais faire un procès. Moi, je suis païenne, je suis une immigrée, et vous me traitez de chien. Donc, c'est un procès, là, je vous fais un procès. Bien. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, Seigneur. Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, notre Seigneur, il craque. Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et à ce moment, sa fille fut guérie. Ben oui, parce qu'elle dit, ben oui, Seigneur, c'est vrai, je suis un petit chien, c'est vrai. Hein, mais vous donnez qu'à manger aux fils d'Israël, mais vous savez, quand on mange à manger, il y a des miettes qui tombent. Et ben moi, je voudrais juste une petite miette, tout simplement. Et ben c'est beau, elle a la foi persévérante. Hein. Donc vous voyez, on pourrait calculer le nombre de fois, au moins 3-4 fois, elle a été rejetée, et à chaque fois, elle continue. Et elle est exaucée. Donc, bel exemple. Alors, quand vous êtes un peu découragé, relisez Saint Matthieu, chapitre 15, verset 24. Alors, relisez cet épisode. Ensuite, l'attention. Bien sûr, l'attention. Elle apostrophe, évidemment. Parce qu'on ne prie pas tendu. Non, on prie attendu. L'attention, c'est prier l'esprit occupé de ce qu'on dit à Dieu ou des choses de Dieu. Alors là, évidemment, c'est le problème des distractions. Ah, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je suis à la messe, je pense à ce fameux canard à l'orange. Le fumet. Ou alors, à chaque fois que je suis à la messe, Chérie, j'ai oublié d'éteindre le four. Mon beau gâteau, etc. Bon, ça peut arriver si vous êtes brillante cuisinière. Ou alors peut-être, de manière un peu plus peut-être fréquente, c'est la punaise, ce chapeau, waouh. Et ce foulard. Oh, ça, elle l'a mis, c'est pour se faire remarquer. Hein. D'abord, hein, il était en vente à la sortie de la chapelle, hein, donc c'est pas un truc, je sais pas quoi, je sais pas quelle est marque de foulard. Non, c'est un truc bas de gamme. Hein, bon. Ah, puis celle-ci, oh là là, elle a un peu mieux s'habiller. Ah, puis là, je suis fier de mon fils, il a mis une belle cravate aujourd'hui. Là, bien sûr. Bref, hein, donc ça, je ne vais pas faire le catalogue parce que les distractions, on connaît. Hein. Alors évidemment, problème des distractions, il ne faut pas tomber dans le reproche que notre Seigneur faisait aux pharisiens. Hein, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Alors comment, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il faut distinguer, bien sûr, les distractions involontaires. Qu'est-ce que c'est que les distractions involontaires? Eh bien, c'est celles que nous essayons de repousser, hein, celles dont nous essayons d'en diminuer le nombre. Eh bien, il faut bien vous dire que ces distractions ne sont pas un obstacle à la prière. Donc, c'est involontaire. Parce que notre âme, bien justement, en vertu des efforts que nous faisons, eh bien, demeure orientée vers Dieu. Nous faisons des efforts pour rester orientés vers Dieu. Donc, ces distractions ne sont pas un obstacle. En revanche, les distractions volontaires, donc c'est celles que nous acceptons, hein, de propos délibérés, ou alors qu'on repousse vraiment très mollement, hein, ou alors on ne veut pas en supprimer les causes. Eh bien, ces distractions volontaires peuvent être des fautes véniales, des péchés véniales, dans les prières de précepte. Par exemple, la messe dominicale, c'est une prière de précepte, et là je fais exprès, je donne cours à mes distractions. Alors là, évidemment, il y a une faute vénielle. Dans les autres prières qui ne sont pas de préceptes, bon, ce sont des négligences, évidemment, des manques de respect envers Dieu, qui évidemment ne va pas le prédisposer à nous exaucer, évidemment. Alors que faire? Voilà ce que se dit un auteur spirituel. Il faut faire des efforts sérieux pour repousser promptement et énergiquement les distractions qui se présentent à nous, savoir nous en humilier et en profiter pour renouveler notre union avec Jésus et prier avec lui. Il faut aussi diminuer le nombre de nos distractions en combattant vigoureusement contre leurs causes, la dissipation habituelle de l'esprit, l'habitude de la rêverie, les préoccupations et attaches qui captivent l'esprit et le cœur, et s'accoutumer peu à peu au souvenir fréquemment renouvelé de la présence de Dieu par l'offrande de ses actions et de pieuses oraisons jaculatoires. Quand nous avons pris ces moyens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des distractions involontaires qui traversent notre esprit ou troublent notre imagination. Ce sont des épreuves, non des fautes, et quand nous savons en profiter, elles augmentent nos mérites et la valeur de nos prières. Donc, ne vous laissez pas arrêter par les distractions. Combattez-les, évidemment, mais que ce ne soit pas un obstacle à la prière. Ben, j'ai des distractions, donc je ne prie plus. Non, surtout pas. Voilà un petit peu toutes ces conditions. Et si malgré tout cela, eh bien Dieu refuse ou diffère de nous exaucer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, si nous ne sommes pas exaucés, eh bien peut-être nous devons croire que nous demandons mal, nous prions mal, hein, que toutes ces conditions que je vous ai énumérées, eh bien nous ne les remplissons pas. Ou bien peut-être est-il utile aussi que Dieu ne nous exauce pas. C'est possible. On peut aussi recevoir ces refus ou ces lenteurs de Dieu comme des témoignages de sa miséricorde, parce que, encore une fois, peut-être que Dieu sait mieux, il sait mieux que nous ce qui nous est bon. Et en tout cas, même si nous prions sans être exaucés ou pas tout de suite, soyons convaincus qu'en tout cas nos prières bien faites restent méritoires, n'en sont pas moins méritoires, et que Dieu les exauce d'une manière plus avantageuse. Les exauce peut-être d'une manière plus avantageuse à sa gloire et à notre salut. Peut-être qu'effectivement Dieu nous donne une autre grâce qui nous est plus utile, hein, plus indispensable, et que peut-être nous nous rendons compte après, plus tard, en disant, bah oui, tiens, finalement Dieu ne m'a pas exaucé, mais peut-être que finalement par cette épreuve ou par telle chose, eh bien il m'a permis d'obtenir une autre grâce, toute chose. Bon, c'est l'exemple d'un, pour essayer d'illustrer, vous avez l'enfant, vous avez par exemple votre fils qui, par exemple, va faire une promenade avec son père, et puis il marche devant, il passe, hein, puis on passe devant une armurerie. Évidemment, un petit garçon, tout de suite, les âmes de guerre, etc. « Oh papa, papa, là, ce pistolet, là, waouh, je voudrais ce pistolet. Puis, vous savez, j'ai bien travaillé à l'école, hein, et puis vous m'aviez dit que si je travaillais bien à l'école, j'aurais un cadeau. Bah, ce cadeau, là, c'est, hein, ce pistolet, ça serait très bien. » Alors, je pense que votre mari n'est pas inconscient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va lui donner autre chose. Écoute, mon chéri, non, ça, c'est pas bien. Non, tiens, voilà. Je t'avais promis un vélo, je t'achète le vélo. Voilà, tiens, tu auras ce vélo. Bon, très bien. Voilà, le bon Dieu agit peut-être de la même manière. Hein? Donc, il ne donne pas cette grâce précise parce que ça aurait été dangereux pour notre salut. Voilà, pour terminer avec la prière, bien sûr, il y a différentes espèces de prières. Vous connaissez la prière vocale, hein, ce qu'on appelle la prière vocale, qui s'exprime par des paroles, hein, tout simplement, les pensées du cœur. Prière privée ou publique. Donc la prière publique, c'est celle qui est faite au nom de l'Église. Donc bien sûr, la Sainte Messe, les offices, le bréviaire, les vêpres, etc. Entre parenthèses, c'est la prière la plus excellente et la plus efficace, c'est certain. Et puis prière mentale, où l'esprit et le cœur s'appliquent aux choses de Dieu sans le secours des paroles. Alors j'ai été un petit peu long, mais je vais quand même vous parler un peu de l'oraison quand même. De l'oraison, notre Seigneur nous dit effectivement, sachez vous retirer. Ça on le lit le mercredi des cendres. Dans Saint Matthieu chapitre 6, verset 6. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est un peu déjà notre Seigneur qui nous parle de l'oraison. Qu'est-ce que c'est que l'oraison, ou méditation, si vous voulez, peu importe le terme? On peut le définir comme l'entretien de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. Entretien de l'enfant de Dieu avec son Père céleste, tout simplement. Sainte Thérèse d'Avila en donne une autre définition qui est très belle également. L'oraison mentale n'est autre chose qu'une amitié divine, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Cette oraison mentale, c'est faite de tous les siècles. Vous connaissez l'épisode aussi de ce paysan que le curé d'Ars va interroger, qui voyait souvent rester, souvent des heures, je ne sais pas si c'est des heures, mais en tout cas beaucoup de fois devant le tabernacle. Et un jour, le Saint-Curé est intrigué et va lui demander, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, lui, de répondre tout simplement, j'avise notre Seigneur qu'au tabernacle et il m'avise. Je l'avise et il m'avise. Donc, très belle réponse, ça montre que même ce paysan savait faire oraison. Donc, vraiment, l'oraison, c'est ce commerce d'amitié, hein, par lequel l'âme s'entretient avec Dieu, dont elle se sait aimée. Donc, il faut voir la simplicité de l'oraison. Bien sûr, au début, il est bon d'avoir une méthode ou, disons, une manière de faire oraison pour éviter un peu les divagations, mais ces méthodes ne doivent pas être un obstacle. Donc, toujours le formel, l'essentiel, c'est ce contact, cet entretien de l'enfant avec son père. C'est ça l'essentiel. Donc, les actes essentiels de l'oraison, eh bien, j'allais dire, l'oraison doit procéder de l'amour de Dieu et se terminer à lui. Dans l'oraison, si vous voulez, quel est l'acte, premier acte essentiel? C'est d'abord l'acte d'humilité. Première chose, acte d'humilité, qui va s'accompagner d'actes de repentir et d'adoration. Donc, ce dont je vous ai déjà dit sur la prière, hein, je ne suis rien. Ensuite, cet acte d'humilité, nous allons poser un acte de foi, un acte de foi profond sur telle ou telle vérité que nous avons choisi de méditer. C'est Dieu, les perfections de Dieu, par exemple, dont nous allons parler, ou notre Seigneur a des mystères sur sa vie, nos fins dernières, ou telle fête liturgique, dans la période liturgique, etc. Donc, acte de foi profond. Et cet acte de foi va faire naître un acte d'espérance. Acte d'espérance dans le secours de Dieu. Et cet acte d'espérance va nous disposer à faire des actes de charité. À chaque acte de charité, charité affective, mon Dieu, je vous aime, donc vraiment des actes d'amour de Dieu. Et cet acte de charité affective doit devenir effective. Donc elle va se transformer en charité effective, c'est-à-dire fiat voluntas tua. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Augmentez mon amour. Et pour cela, ben, je vais prendre telle ou telle résolution, me corriger de tel défaut. Vous voyez, c'est une très grande simplicité. Acte d'humilité qui ensuite va engendrer ces actes de foi sur telle vertu, telle vérité, qui va nous se prolonger en acte d'espérance. Acte d'espérance qui va se prolonger en acte de charité et qui va nous faire ensuite cet acte de charité va nous faire prendre des résolutions pour nous corriger ou nous améliorer. Donc l'avantage de l'oraison, nous aide à nous détacher du péché et de ses causes. C'est vrai qu'elle va nous éclairer sur la malice du péché. On ne peut pas être avec Dieu si on s'approche de Dieu automatiquement, on va détester le péché. Ça, c'est obligatoire. Elle va nous détacher aussi un peu du monde et de ses faux plaisirs. Bien sûr, elle va nous rappeler la fragilité un petit peu de tous ces biens matériels. Elle va se détacher, elle va nous faire nous détacher même de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre sensualité, etc. Donc pour toujours mieux nous attacher à Dieu. En même temps, elle va fortifier notre volonté, en nous donnant toujours de plus fortes convictions, une plus grande foi, une plus ferme espérance, une plus ardente charité. Elle va nous aider à pratiquer toutes les vertus chrétiennes, donc ces vertus théologales bien sûr, mais ensuite la prudence, la force, la tempérance, la justice, etc. Et puis bien sûr, enfin, elle va nous préparer à notre union et même notre transformation en Dieu. On va vraiment être unis à Dieu. Ainsi, on peut parler de la nécessité de l'oraison en étant un moyen de sanctification très efficace. Moyen de sanctification très efficace. Même, certains auteurs nous disent, c'est même le moyen le plus utile et le plus efficace d'assurer notre salut. Voilà ce que Saint Alphonse... Oui, voilà, c'est l'enseignement de Saint Alphonse. Il en donne cette raison. Avec les autres exercices de piété, comme le rosaire, l'office de la Sainte Vierge, le jeûne, on peut malheureusement continuer de vivre dans le péché mortel. Mais avec l'oraison, on ne peut demeurer longtemps dans le péché grave. Ou l'on abandonnera l'oraison, ou on renoncera au péché. Comment en effet se présenter chaque jour devant Dieu, auteur de toute sainteté, avec la conscience nette qu'on est en état de péché mortel, sans prendre avec le secours de la grâce la ferme résolution de détester son péché et d'aller se jeter aux pieds d'un confesseur pour obtenir le pardon dont on voit l'absolue nécessité. Si, au contraire, on n'a pas un moment fixe et une méthode déterminée pour réfléchir sur les grandes vérités, on se laisse entraîner par la dissipation, les exemples du monde, et on glisse insensiblement dans le péché. En tout cas, c'est un moyen certainement très utile et très efficace, très salutaire à tous, de faire cette oraison. Comment y parvenir à cette vie d'oraison? Bon, très rapidement. Bon, l'humilité, bien sûr, on en revient toujours là. Mais savoir aussi avoir l'esprit du détachement des choses sensibles, des choses de ce monde. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire son devoir d'État, attention. Distinguons bien les choses. Mais souvent, on a des affections trop humaines, des affections trop mondaines. Ou alors, on se laisse prendre par la jalousie, par le souvenir des torts du prochain, des jugements téméraires, etc. Et si c'est comme ça, évidemment, on ne peut pas s'entretenir avec notre Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, un moyen, bien savoir élever souvent pour s'y préparer à cette oraison, savoir élever souvent son cœur vers Dieu dans la journée, s'entretenir avec notre Seigneur, faire silence dans son âme, savoir mortifier un petit peu toutes nos imaginations, hein, faire taire les passions plus ou moins déréglées. Tout cela, c'est un peu la préparation éloignée, hein, pour notre raison. Et puis la préparation immédiate, bien sûr, choisir un sujet, n'arrivez pas comme ça, les mains vides, j'allais dire. Non, bon, prévoyez telle ou telle vérité, la liturgie peut vous aider, évidemment, hein, la période liturgique, l'évangile du dimanche, par exemple, etc. N'hésitez pas à prendre un livre, hein, parce que la raison n'est pas une rêverie, évidemment. Bon, c'est pas non plus une lecture spirituelle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander conseil. C'est sûr, si vous connaissez à votre confesseur ou un prêtre, de demander conseil, pour profiter de cette retraite aussi, si vous voulez vous donner à l'oraison, pour prendre des conseils, des façons de faire. On peut persévérer, donc si vous avez commencé puis vous avez lâché, sachez qu'on peut persévérer dans la vie d'oraison. Bon, c'est vrai qu'il y a une lutte contre soi-même, peut-être contre la paresse ou contre le démon qui décourage. En tout cas, avoir toujours une grande confiance en notre Seigneur et se laisser conduire par lui. Et pour terminer, en résumé, je vous lis juste un passage de Don Marmion dans « Christ vit de l'âme ». Si vous voulez aussi approfondir un peu ce sujet de l'oraison, vous avez tout un chapitre de Don Marmion dans « Christ vit de l'âme » sur l'oraison. Donc ça, pendant la retraite, n'hésitez pas à le lire. Et voilà le résumé, ce qu'il en dit. Peut-être essayer de vous donner le goût à faire oraison. L'oraison est un des moyens les plus nécessaires pour réaliser ici-bas notre union à Dieu et notre imitation du Christ Jésus. Le contact fréquent de l'âme avec Dieu dans la foi par l'oraison et la vie d'oraison aide puissamment à la transformation de notre âme au point de vue surnaturel. L'oraison bien faite, la vie d'oraison est transformante. Or, l'oraison, la vie d'oraison maintient, stimule, avive et perfectionne ces sentiments de foi, d'humilité, de confiance et d'amour, dont l'ensemble constitue la meilleure prédisposition de l'âme à recevoir l'abondance de la grâce divine. Une âme à laquelle l'oraison est familière profite plus des sacrements et des autres moyens de salut qu'une autre en laquelle l'oraison intermittente est sans suite et sans vigueur. Une âme qui ne s'adonne pas fidèlement à l'oraison peut réciter l'office divin, le bréviaire, assister à la Sainte Messe, recevoir les sacrements, entendre la parole de Dieu, mais ses progrès seront souvent médiocres. Pourquoi cela? Parce que l'auteur principal de notre perfection et de notre sainteté est Dieu même, et que l'oraison maintient l'âme dans un contact fréquent avec Dieu. Elle établit, et après l'avoir établie, entretient dans l'âme comme un foyer, sinon toujours en action, du moins dans lequel le feu de l'amour couvre toujours. Et dès que cette âme est mise en communication directe avec la vie divine, par exemple dans les sacrements, c'est comme un souffle puissant qui l'embrase, la soulève, la remplit avec une surabondance merveilleuse. La vie surnaturelle d'une âme se mesure à son union à Dieu par le Christ dans la foi et l'amour. Il faut que cet amour produise des actes, mais ces actes, pour être produits d'une façon régulière et intense, réclament la vie d'oraison. On peut établir que d'après les voies ordinaires, notre progrès dans l'amour divin dépend pratiquement de notre vie d'oraison. Donc aimons tout simplement cette vie de prière, cette vie d'oraison. Sachons bien sûr l'adapter à notre devoir d'État, c'est clair. Une mère de famille avec des enfants ne peut pas faire comme une religieuse, c'est évident. Donc il faut savoir adapter à notre devoir d'État. Donc pour cela, important de demander conseil. Mais n'oubliez pas en tout cas que la prière, c'est vraiment la respiration de notre âme et que sans elle, eh bien, c'est l'asphyxie spirituelle. Voilà, donc nous pouvons maintenant nous rendre à l'église.